Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur préféré et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 21 mai 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. L'association dispose d'un site web, april.org, sur lequel vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission, avec les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas à nous faire aussi des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, nous allons passer au programme de cette émission. Nous commencerons par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, qui sera avec nous par téléphone dans quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur des modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre avec la société Easter Eggs et la société 24e. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique de Véronique Bonnet, intitulée « Partager est bon ». Véronique est Bonnet, vice-présidente de l'April, et sa chronique portera sur le sujet du droit de lire. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creusot et Isabelle Vanni.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Bonjour Isa. Alors tout de suite, place au premier sujet. Alors nous allons commencer par une intervention de Marie-Odile Morandi, qui est animatrice du groupe Transcription à l'April, pour sa chronique donc intitulée « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Alors, quels sont tes coups de cœur aujourd'hui? Quel est le sujet dont tu souhaitais nous parler aujourd'hui?
Je souhaitais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui sera d'actualité chaque année à la même époque, au mois de mai, c'est-à-dire les réponses aux vœux d'affectation que les lycéens de terminale ont insérées sur la plateforme Parcoursup les mois précédents, donc les propositions d'admission répondant aux choix qu'ils ont indiqués pour leurs études à venir dans l'enseignement supérieur. Depuis le 15 mai 2019, les lycéens concernés, presque 900 000, peuvent prendre connaissance des réponses à leurs vœux et certains journaux et réseaux sociaux font déjà état de soucis concernant le fonctionnement de Parcoursup. Je souhaite donc vous présenter trois transcriptions publiées sur le site de l'April qui traitent de Parcoursup, chacune proposant un angle d'observation différent.
Alors, première question, qu'est-ce que Parcoursup, Marie-Odile?
Parcoursup est la plateforme nationale avec l'application destinée à recueillir et à gérer les vœux d'affectation en première année de l'enseignement supérieur en France des presque bacheliers. Elle remplace l'ancien système d'admission post-bac, APB, très critiqué en 2017, en particulier parce que des étudiants avaient été affectés par tirage au sort, ce qui évidemment laisse perplexe. L'algorithme d'affectation Parcoursup se compose de deux parties, un algorithme national et des algorithmes locaux créés et utilisés par chaque établissement d'enseignement supérieur.
Alors, dans la première transcription que tu veux nous présenter, de quelle façon est traité ce sujet ?
La première approche est proposée par les intervenants d'un décryptualité du mois de mai 2018 intitulé « Parcoursup, publié en libre sur Framagit ». Ce décryptualité nous indique que le code source de Parcoursup a été publié le 22 mai 2018. Il a été déposé sur Framagit, la forge logicielle de Framasoft, basée sur du logiciel libre et qui héberge du code source libre. Le projet Parcoursup a été libéré sous licence libre GPL, GNU General Public License, qui lui confère les quatre libertés du logiciel libre. Les intervenants se complimentent de ce choix à mettre au crédit du ministère, soulignant une bonne volonté derrière cette mise en place. Le code est libéré, il devient transparent. Connaître le code, c'est connaître les critères et savoir comment ça marche. Maintenant, on peut discuter réellement sur des éléments sérieux au lieu d'être dans l'obscurité, puisqu'on va pouvoir étudier ce code avec un coup de chapeau à l'équipe qui a publié.
Bon, mais alors, à t'écouter, tout va bien, tout le monde est satisfait.
Hélas non, dès 2018, ce code de Parcoursup était contesté dans son objectif et dans sa façon de faire. Il ne plaît pas à tout le monde, il ne plaît sans doute pas aux défenseurs du logiciel libre et aux responsables de la forge Pramagit, mais c'est du libre. En utilisant d'autres exemples, les intervenants nous rappellent que le logiciel libre peut être utilisé pour des choses qui sont parfois regrettables. On peut l'utiliser pour ce qu'on veut, c'est même une des quatre libertés essentielles. Autre problème, en mai 2018, seul l'algorithme national a été publié. Les algorithmes locaux ne l'ont pas été, donc la deuxième partie de sélection n'est pas encore publique.
D'accord. Alors ça, c'est la première transcription. Une autre transcription aborde la méthode de Parcoursup sur le fond ce coup-ci.
Oui, la deuxième transcription que je vous propose de lire ou de relire, les références sont bien sûr sur le site de l'April, sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui, est une étude de fond très complète. En juillet 2018, aux rencontres mondiales du logiciel libre à Strasbourg, Judicaël Courant a tenu une conférence intitulée « Parcoursup, un enfer pavé de bonnes intentions » avec un point d'interrogation. Ce professeur de classe préparatoire nous parle de son expérience puisqu'il fait partie du jury de son établissement pour choisir les futurs élèves de la section dans laquelle il enseigne. Son expérience lui permet des comparaisons avec le précédent système d'affectation APB. Il expose des simulations de situations qui peuvent se présenter. Son analyse est très complète et il formule des propositions d'amélioration.
Alors, quels sont les principaux reproches formulés par cet intervenant ?
Il n'hésite pas à qualifier Parcoursup d'usine à gaz, car c'est une procédure très centralisée. Il insiste sur deux problèmes qui sont à envisager de façon, disons, politique. Le premier problème, la sélection. Pour Judicaël Courant, à partir du moment où vous avez plus de bacheliers qui veulent faire des études supérieures que de places disponibles, la sélection reste nécessaire. Ce qu'il souhaiterait, c'est qu'on se pose la question des critères divers et variés sur lesquels repose cette sélection. Il est clair qu'aucun algorithme ne peut résoudre le problème du manque de places dans l'enseignement supérieur. Le deuxième problème regarde la hiérarchisation des choix des futurs étudiants que refuse absolument la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je vous invite à lire les conséquences développées par le professeur Courant que cela entraîne, en particulier le fait qu'il n'y aura plus de statistiques sur lesquelles asseoir une politique publique et le fait que certains postulants vont en quelque sorte se censurer, mentir sur leurs préférences, leur objectif étant d'être admis quelque part, et bien entendu, cela devient totalement contre-productif. En tant qu'expert des sujets traitant d'informatique, il pose les questions habituelles. Est-ce que l'ordinateur sur lequel fonctionne le processus n'est pas défectueux? Est-ce que le code qui tourne sur cet ordinateur est le bon? Est-ce que les données en entrée sont correctes, qu'il n'y a pas des oublis? Est-ce que les résultats qui sont publiés sont bien ceux qui ont été calculés?
Donc tu conseilles et on conseille la lecture de cette transcription.
Tout à fait. Les explications données sont très approfondies. Les améliorations qu'il propose font état d'un algorithme connu des experts, utilisé dans divers pays et qui, selon lui, serait une bien meilleure solution. En réponse à une question du public, Judicaël Courant indique qu'il a alerté des parlementaires sur le sujet et il souhaite que le débat soit porté sur la place publique.
Et concernant les algorithmes locaux ?
Eh bien là, c'est la troisième approche, celle de Xavier Berne, avec les explications données dans sa chronique d'une émission Libre à vous de mars 2019. Par une demande CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, le syndicat étudiant UNEF avait demandé l'année dernière à plusieurs dizaines d'universités de rendre publics leurs algorithmes locaux afin que les candidats sachent sur quels critères leur dossier allait être examiné. Un jugement rendu par le tribunal administratif de Guadeloupe a ordonné à l'Université des Antilles de communiquer à l'UNEF son algorithme local de sélection des étudiants ainsi que les codes sources correspondants. Xavier Berne ne parle pas d'algorithmes, mais de tableurs utilisés par les universités pour que les jurys locaux effectuent un préclassement des candidats. Et, nous dit-il, de nombreux observateurs pensent que c'est là le cœur de la machine Parcoursup où se joue en grande partie la sélection des étudiants. Sur ce dossier, Xavier Berne n'hésite pas à parler de « balle des faux culs ». Plusieurs membres du gouvernement, à diverses reprises, avaient promis la transparence sur Parcoursup pour mettre un terme aux critiques qui avaient concerné APB.
Admission post-bac.
Dans la discussion avec Xavier Berne, c'est toi, Frédéric, qui nous rappelle que pour bien comprendre réellement tout le système, il faut rendre public trois choses, le code source de la plateforme nationale, les algorithmes locaux et les documents qui expliquent tout cela.
Ben, si je le dis, c'est que ça doit sans doute être exact. En conclusion, Marie-Odile, sur ce sujet de Parcoursup.
Bien, eh bien, nous en saurons certainement davantage dans les semaines qui viennent. La transparence sera-t-elle au rendez-vous? Et bien sûr, tout cela étant construit avec de l'argent public, tout cela devrait être public. Et comme dit Judicaël Courant, il serait indigne de se satisfaire de la solution actuelle eu égard à ce qu'elle fait subir aux bacheliers, et je me permets d'ajouter aussi à leurs familles. Mais il faut le reconnaître, des pas ont été accomplis dans la bonne direction et c'est souvent sur ce qui ne va pas qu'on communique.
Alors, as-tu quelque chose à ajouter en conclusion ?
Oui, bon, en conclusion, pour terminer, je souhaiterais remercier publiquement une personne dont le pseudo est ma cousine et qui, toutes les semaines, relie la transcription de l'émission Libre à vous, entre autres, avant l'ultime lecture que je fais moi-même pour publier. Parmi les auditrices et auditeurs de l'émission, le groupe Transcription de l'April recherche ses autres cousins et cousines et les remercie par avance.
Alors effectivement, on remercie tous et toutes ma cousine qui est d'ailleurs présente sur le salon. Hein. C'est son pseudo, hein. C'est évidemment pas notre cousine. Fait, quelque part, c'est un peu notre cousine à nous. Et sur le site de l'April, april.org, il y a les références pour rejoindre le groupe Transcription et soit faire des transcriptions, soit faire des relectures de transcriptions déjà faites ou des corrections simplement orthographiques. Eh bien écoute, je te remercie Marie-Odile et je te souhaite de passer une bonne fin de journée.
Merci, bonne continuation à vous.
Alors nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter Tracing My Steps par Tobias Weber et on se retrouve juste après.
Absolute beginners came to Georgetown. They were wearing Harris tweed and pork pie hats. They'd slit your throat and throw you in the gutter. But it's all you can expect from men like that. The bus is bound for Niles Bend and Harbor. The ladies wear perfume to scar your nose. And the only way to reach them is to scare them. But of that you know little, I suppose. It's a magical and mystical performance as you perambulate right down the road with your pockets full of stardust and perfection. Jesus on your side and in your soul. She had rings on every finger and 10 bracelets. Some touch with powers given by a sage. He had contemplated giving her his wristwatch. The time for him had long since gone its way. City, he would shuffle while spinning on his heels and chewing beef. He'd promise her he'd be a vegetarian, but he could not control his lust for meat. So Sasha left the streets for greater glory,
But others said that she was big with child. Whatever was the truth, it did not matter. He would hunt her down and cut her with his smile. Last time he was seen was by the pawn shop. He traded two gold teeth for a sack of corn. And he would plant it on the outskirts of the city as a warning that he would someday return. As he said he never found her, he's still looking. It is said he searches rivers for some sign. But the truth is that he caught her down in Georgetown with a Spaniard who had left his wife behind.
Nous venons d'écouter Tracing by Steps par Tobias Tauber. Donc les références sont sur le site de l'April, c'est en licence Creative Commons Partage. J'en profite pour signaler que cette musique vient d'un extrait musical de la première émission sur Graphite, une émission de radio sur la région de Compiègne, et également disponible en streaming. L'émission de radio s'appelle La Voix du Libre. Et ce sont de nos amis de picassoft.net, c'est tous les vendredis de 9h à 9h30, donc sur 94.9 autour de Compiègne, et en streaming sur Internet et avec les podcasts. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, donc nous 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur des modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre avec nos deux invités. Donc Pierre-Yves Dillard de la société Easter Eggs. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour.
Et Vincent Laurent de... Alors je ne sais pas si on dit le 24e ou de l'entreprise 24e. Bonjour Vincent.
Bonjour, on dit le 24e.
Le 24e. Alors peut-être que tu expliqueras tout à l'heure d'ailleurs d'où vient ce terme, le 24e. Alors nous allons parler dans cette émission pas forcément de logiciels libres en tant que tel, mais plutôt de certains modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre qui normalement essayent de rendre, on va dire, une partie du bonheur au travail. Pour finir de préparer l'émission hier, je regardais un documentaire qui s'appelle justement Le bonheur au travail, qui avait été diffusé sur Arte il y a quelques années. Et dans l'introduction, un des intervenants expliquait, alors là c'est de mémoire parce que je n'ai pas noté les chiffres, mais je crois que 10% des personnes en France qui vont au travail sont heureuses d'aller au travail. Il doit y avoir 50% qui y vont mais sans être engagés, et le reste est complètement désengagé de leur activité du travail. Donc là, on va avoir des expériences de personnes qui sont a priori dans la tranche des 10% heureuses d'aller travailler, en tout cas, on l'espère. Alors d'abord, une petite présentation individuelle, rapport rapide de votre parcours à chacun. Donc Pierre-Yves Dillard, déjà.
Alors moi, j'ai participé au début d'Easter Eggs donc en 97-98. Avant, j'avais un parcours absolument en dehors de l'informatique, puisque j'ai une formation à la base d'historien. Je me destinais soit au journalisme, soit à l'enseignement. J'ai un peu essayé les deux. Et puis après, des rencontres, des hasards font qu'à un moment, on prend un aiguillage et on se retrouve dans une voie comme l'informatique.
D'accord. Vincent Laurent ?
Alors, moi, donc, je suis développeur web et je fais aussi de l'administration système. J'ai une formation de beaucoup en apprentissage, essentiellement en apprentissage. Donc j'ai une licence pro et voilà, ensuite j'ai travaillé 5 ans dans la même entreprise, là où j'ai appris où j'ai fait toute mon expérience, que ce soit travailler en équipe, en méthode agile, et notamment découvert le logiciel libre. Et voilà, suite à cette expérience qui était dans une entreprise pyramidale, j'ai décidé avec mes collègues de fonder le 24e.
D'accord. Alors Pierre-Yves, on va commencer par une présentation, on va dire, succincte des grandes lignes du projet d'Easter Egg, d'organisation, du projet initial, des concepts. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail à chaque fois, évidemment, sur les différents points et avec des questions et des échanges entre vous. Donc déjà, Pierre-Yves, une petite présentation du projet Easter Egg.
Alors, dès l'origine, en fait, Easter Egg était un projet avec deux casquettes. Il y avait un projet économique, parce qu'on est une entreprise. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir vivre de son travail. Et il y avait un projet social. Donc, ces deux projets ont toujours été étroitement liés et jamais on essaie de faire en sorte que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Donc, un projet économique, une société de services en informatique, spécialisée dans l'intégration et la mise en place de logiciels, que ce soit en intégration système et réseau ou en développement spécifique. Ça, c'est ce qui permet en fait de faire bouillir la marmite, de gagner notre vie. Et à côté, le projet social, avec comme base deux principes sur lesquels on reviendra sûrement, c'est une élection du gérant annuel, donc on va dire de la direction, on pourra aller plus loin sur ce sujet plus tard, et le salaire égal. Et ce sont ces deux principes qui ont construit Easter Eggs pendant ces dernières années, enfin plus de 20 ans maintenant.
L'année de création d'Easter Eggs, tu peux le rappeler ?
C'est 1997, enfin c'est fin 1997.
Ouais. Donc c'est intéressant, je pose la question parce que c'est un retour d'expérience d'une vingtaine d'années qui va compléter une retour d'expérience plus courte du 24e. Alors, donc Vincent Laurent, le 24e, donc c'est quoi le projet initial ? Et puis pareil, la date de création ?
Donc comme j'expliquais tout à l'heure, on était une équipe de quatre développeurs. On était très contents de travailler sur nos projets. On était assez indépendants dans l'entreprise dans laquelle on travaillait. Mais il se trouve que la structure pyramidale de l'entreprise a fait que on a commencé à avoir on nous a mis des bâtons dans les roues dans notre travail au quotidien. Et du coup, on a décidé au lieu de partir chacun de notre côté, on a décidé de fonder le 24e et donc initialement le besoin est de travailler dans des bonnes conditions et d'avoir le pouvoir de travailler dans les conditions dans lesquelles on veut travailler.
D'accord. Et est-ce que tu as quelques mots clés par rapport justement à ces objectifs de travailler dans les bonnes conditions?
Ouais. Donc c'est le partage du pouvoir. Essayer qu'il soit le plus horizontal possible et le plus distribué possible. Donc ça passe par une grande transparence. Nous, on a aussi fait le choix de développer uniquement des logiciels libres. Ça participe aussi à la transparence et au partage du pouvoir. Et nos méthodes de travail, donc, qui sont de l'auto-organisation et de la méthode agile. Donc, développer toujours sur du concret, c'est celui qui développe, qui décide. Donc vraiment de baser sur du concret, quoi.
D'accord, c'est le principe de celui qui sait, fait.
Ouais, exactement, c'est ça.
Alors on va revenir, on a quelques mots-clés déjà, donc élection de la direction, partage du pouvoir horizontal, ou en tout cas transparence, on a le terme de l'agilité sur laquelle on va revenir, auto-organisation, logiciel libre. Alors on va évacuer cette question, la première. Vincent Laurent l'a expliqué dans le cadre du projet donc du 24e. Le mot 24e vient d'où alors ?
Ouais. Alors du coup, on était une équipe de développeurs qui étions au 4e étage, donc on nous appelait les gars du 4e. Et il se trouve qu'on travaille essentiellement pour les viticulteurs, donc dans des projets vins. Et donc du coup, ça fait le 24e. Et il se trouve que c'est aussi l'inverse de 42. Mais c'est
alors voilà, je pensais qu'initialement c'était l'inverse de 42, mais je n'avais pas fait le lien avec 20 et le 4e, ouais. Parce que je connais un peu l'historique dans l'entreprise, dans les informations de transparence. Évidemment, l'un des associés, c'est Tanguy Morlier, ancien président de l'April, toujours membre de l'April, donc quelqu'un qui est déjà intervenu à deux reprises dans l'émission.
Il n'est pas associé, il travaille
pour vous.
Il travaille au quotidien avec nous, mais il n'est pas associé du 24e.
D'accord, ok. Alors bon, Vincent donc, a dit que la partie logiciel libre faisait partie du cœur du projet de la société. D'ailleurs, on reviendra peut-être tout à l'heure sur le modèle d'organisation, ouais. Scope, etc., si on peut. Côté Easter Eggs, je suppose qu'aussi, dès le départ, c'était le principe de base.
Alors, en fait, ça a été très vite le principe de base, puisqu'en fait, c'est à l'époque où on s'est créé, c'était aussi un petit peu l'émergence du mouvement du libre en France. Et on a pris la vague avec un certain nombre d'entreprises, dont certaines que tu connais bien, Fred. Alcove, pour ne pas les citer, mais voilà, on était au début de cette vague-là et ça a été un choix aussi. Alors, ça a été un choix philosophique, mais c'était aussi un choix d'opportunité. C'était un nouveau marché qui s'ouvrait à nous et il y avait vraiment la possibilité de monter une entreprise sur ce principe-là.
D'accord. Alors, je pose aussi cette question parce que tout à l'heure, quand on parlera en fin d'émission des autres exemples, je demanderai à mes intervenants des exemples d'autres entreprises qui fonctionnent sur ces modèles-là. L'un de mes questionnements, en fait, j'en ai un double, hein, qui est-ce que c'est le passage à l'échelle ? Est-ce que dans les grandes entreprises, ce mode de fonctionnement que vous allez décrire peut fonctionner ? Et le deuxième, est-ce que c'est aussi valable dans des entreprises qui ne sont pas des entreprises, on va dire, du numérique et autres, dans lesquelles on a déjà une historique de travail de façon transparente et en collaboration. Mais ça, on y reviendra en fin d'émission. On va commencer déjà plutôt par la partie, on va dire, alors d'un côté, Pierre-Yves a cité l'élection de la direction, Vincent a cité le partage du pouvoir, l'horizontalité. Alors donc, au niveau d'Easter Eggs, comment ça fonctionne, ça?
Bah, en fait, on avait un principe au départ, c'était l'élection du gérant. Donc à partir du moment où on fait une élection du gérant, ça veut dire que l'ensemble des salariés vont... alors, élection désignée, à la base, c'est une élection. Et ensuite, sur ce principe-là, on va pouvoir mettre en place, en fait, en fonction du groupe constitué, les salariés, le gérant, va se mettre en place une organisation, on va dire, qui découlera des choix et des personnes en présence. Et en fait, en fonction du gérant, on peut avoir une vie au quotidien de l'entreprise qui va être différente, puisque le gérant va être plus ou moins impliqué dans le suivi, plus ou moins laisser, on va dire, l'entreprise avec un maximum d'autonomie sur les personnes. Donc ça va dépendre essentiellement de la personnalité du gérant. C'est aussi un apprentissage qui va se faire, puisqu'au départ, quand on dit on va élire le gérant, donc il y a un côté démocratique des choses, donc ça marche très bien. Surtout qu'au départ, quand on est une petite entité, on est finalement 4, 5, 6. Il y a un gérant qui est élu, mais on se côtoie au quotidien. Quand on commence à être, comme chez Easter Eggs, et comme on l'a été, 24 très rapidement, 25 en 2002. Donc on a eu une croissance très rapide, puisque c'était l'époque des start-up et de la bulle. Et même si nous, on n'était évidemment pas financés, mais c'était nos clients. Les entreprises de la Net Economy étaient nos clients. Et donc, à ce moment-là, on avait effectivement une direction relativement forte, mais qui était partagée. Et puis, en fait, on s'est aperçu très vite que la croissance qu'on a connue, alors là, je ne vais pas empiéter sur le sujet de la fin, mais la croissance qu'on a connue fait qu'une organisation comme la nôtre a besoin de beaucoup de communication et finalement beaucoup d'outils pour faire en sorte que cette communication circule et que l'information circule. Et donc là, c'est effectivement un moment, c'est le rôle du gérant de mettre tout ça en place. On sait, si je prends aujourd'hui et si je prends au départ l'entreprise, aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir 3 gérants. Ça veut dire que on a donc une co-gérance de 3 personnes dans des services différents. On a un gérant qui est dans la partie administrative et commerciale, un gérant qui est dans la partie administration système et réseau, un gérant qui est dans la partie développement. Et ça signifie aussi qu'en fait, on a moins besoin de gérants et qu'il y a un principe d'autogestion qui s'est mis en place, mais dans le temps et petit à petit, et qu'aujourd'hui, on a pris une vitesse de croisière par rapport à tout ça, et que finalement, il y a moins besoin de se référer à une personne ou à un personnage qui agit un peu comme guide et comme rempart et qui va montrer le chemin, puisqu'aujourd'hui, le chemin est tracé.
D'accord. J'aurais quelques questions par rapport à cette gérance. Comment ça se passe au niveau donc, de 24e? Donc déjà, vous êtes plus petit, vous êtes 4
ouais,
personnes.
On est 5, ouais.
5. Est-ce que vous avez aussi cette notion de gérance ou ça se passe complètement différemment?
Ouais, donc nous, en fait, on a une co-gérance à 3 aussi. L'idée, c'est de... Bon, initialement, l'idée, c'est qu'on était 3 fondateurs, mais on a eu une discussion là-dessus dernièrement parce qu'on devait renouveler la gérance. Et en fait, l'idée qui en est sortie, c'est qu'on conservait la co-gérance à 3 parce que ça permettait de partager le pouvoir, justement, et qu'il n'y ait pas une seule personne qui se sente de faire toutes les tâches administratives, et qu'on évite aussi l'effet avoir le pouvoir, un effet qui est inhérent, en fait, d'avoir du pouvoir, quoi. Enfin, un effet débordant, quoi. Et donc, on s'est dit qu'on ferait une gérance tournante à 3. Bon, là, on n'est que 5, donc elle n'est pas hyper tournante, mais c'est l'idée. Après, une des premières approches qu'on a eues aussi par rapport à cette partage du pouvoir, c'est l'approche SCOPE. Donc, nous, on est une coopérative, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et donc, la première approche, c'est un homme égale une voix et que tout le monde a vocation à devenir associé dans une SCOPE. Donc, on s'est d'abord questionné là-dessus, ensuite sur la co-gérance.
Ouais. D'accord. Vas-y.
Pour que ce partage du pouvoir et cette co-gérance fonctionnent, nous, on s'est surtout axé sur la transparence.
Parce que justement, c'était ma question suivante, mais je vais te laisser poursuivre justement. Mais c'est très bien. ma question suivante, donc, effectivement, c'est sur la transparence. Comment se... Parce qu'évidemment, dans le documentaire que j'ai regardé hier, je ne sais pas s'il est encore disponible vraiment en libre accès sur Internet, mais sinon, vous pouvez sans doute le trouver. Un point essentiel, il y a cet aspect de transparence, d'accès aux informations pour pouvoir évidemment prendre des décisions et être informé. Donc, comment ça se passe concrètement déjà au 24e pour la transparence? Est-ce que c'est totalement transparent? Quelles sont les informations qui sont transparentes? Et comment techniquement vous mettez ça en place? Sachant que vous êtes des informaticiens, j'ai une petite idée de la réponse, Vincent.
Donc, en gros, le seul truc pas transparent, ce sont les documents type facture, les documents type administratif. Après, on partage quand même tous nos modèles de contrat et nos modèles de contrat client et contrat salarié. Tout le reste est transparent, nos assemblées générales, nos comptes annuels, notre historique bancaire, donc chacune de nos dépenses et chacune de nos revenus sont publics, disponibles sur donc nous, la forge qu'on utilise, GitHub. Et on n'a pas encore migré sur une plateforme libre.
Mais en tout cas, tous ces documents, j'ai été voir sur cette plateforme. La référence est sur le site de l'April et aussi évidemment sur le site du 24e. Hein, c'est 24e, j'ai oublié de le dire, 24e.fr. Ouais. Et Historex, c'est historex.com. Et donc, sur ce site, cette plateforme logicielle d'hébergement, j'ai vu qu'effectivement, vous avez les documents, les comptes rendus d'activité, les comptes rendus de réunion, la banque, donc une très très forte transparence, y compris en interne, mais également donc en externe. Donc, c'est un accès public, je le précise.
Exactement, voilà. L'idée, c'est vraiment de se protéger du pouvoir. Que si l'un de nous, un jour, décide, pour n'importe quelle raison, de prendre le pouvoir, qu'il ait beaucoup de difficultés à le faire.
Et côté historique, comment ça se passe, cette transparence?
Alors nous, on a également le principe de transparence a été un moment, un principe, on va dire, de réflexion fort, sachant que pour pouvoir décider, effectivement, il faut être informé. Donc il y a une obligation. Nous, on ne partage pas trop vers l'extérieur. On partage vers l'extérieur à travers le réseau Libre Entreprise, dont on pourra parler un peu tout à l'heure, qu'on a créé, donc la transparence entre les entreprises du réseau. C'est une entreprise qui fonctionne comme nous. Et puis, en interne, au niveau des salariés, tous les partages sont évidemment accessibles à tous. On pousse l'information, on va dire, de nature financière régulièrement pour pouvoir informer les uns et les autres sur l'état des finances de l'entreprise, si ça va bien, si ça va mal, ainsi de suite. Et puis, toute communication vers l'extérieur est systématiquement doublé sur des listes de diffusion. Donc ça pousse l'information et qui veut aller consulter ce qui se passe dans la partie commerciale, la partie dev, la partie admin 6 ou avec tel ou tel client a la possibilité de consulter et de suivre. Faut savoir que ce principe-là, il est intéressant, mais au quotidien, il est assez vite ingérable. Donc à un moment, on peut faire des pauses où certains ont plus de facilité comme ça à s'aménager du temps pour suivre. Et donc il y en a qui arrivent très bien, il y en a qui ne prennent pas une seconde pour le faire. Pas seulement par manque de temps, mais parce qu'ils considèrent qu'ils font confiance à un tel ou un tel et qu'ils savent que l'information est à tel endroit et qu'ils pourront aller la consulter si c'est nécessaire. Et l'autre outil de transparence qu'on va utiliser vis-à-vis de notre fonctionnement quotidien est plutôt là dans au travail. C'est qu'aujourd'hui, nous, on a développé toute notre activité autour d'un système de ticketing. Et en fait, toute relation avec l'extérieur est gérée sous forme de tickets qui archive tous les échanges, tous les documents.
Est-ce que tu peux juste expliquer en une phrase ce qu'est un ticket?
Un ticket, c'est fondé sur un suivi de mail très précis avec des notions de statut sur lequel on peut après avoir des tableaux de bord et ainsi de suite, savoir qui répond, qui fait quoi. Donc ça permet notamment, on prend l'exemple des développeurs, de travailler en toute efficacité dans leur relation avec le client à travers un ticket. Le ticket, il va être visible et accessible par tout un chacun. C'est-à-dire que si le développeur, demain, décide de partir, on a archivé toutes ces informations dans ce ticket. Et lui, ça lui évite de faire un reporting supplémentaire. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que notamment les entreprises pyramidales, il y a un temps fou passé à faire du reporting à la hiérarchie pour dire ce qu'on fait. Donc une perte terrible d'efficacité. Chez nous, on travaille, on reporte en même temps et l'information est accessible directement.
Alors justement, par rapport à ça, dans le reportage dont je parlais, l'un des points clés de ce genre d'organisation, c'est la confiance dans l'être humain. Et un des intervenants, donc, je ne me souviens plus du nom, mais d'une société, peut-être Favi ou Fabi, je pense que...
Oui, Favi, ouais.
Favi, disait qu'effectivement, beaucoup d'entreprises pyramidales perdaient un temps fou à faire du contrôle, alors qu'en fait, il ne fallait pas faire du contrôle, au contraire, il fallait laisser faire confiance aux gens, et que ça marchait beaucoup mieux. Donc je vous encourage vraiment à regarder ces exemples-là. Il y a un site aussi qui s'appelle organisationlibérée.fr, des références aussi sur le site de la presse sur lequel vous avez trouvé beaucoup de références. Maintenant, j'ai une question, ou plutôt deux questions pour tous les deux, toujours sur cette partie, on va dire, gérance, organisation. Quand ça se passe bien, a priori, il n'y a pas de souci. mais prenons deux cas, on va dire, différents. L'un, c'est une embauche. Donc, comment se gèrent les embauches chez vous? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tout le monde intervient ou si finalement c'est la gérance qui donne son avis? Et deuxième point plus problématique, c'est quand il faut se séparer de quelqu'un, alors soit pour des problèmes économiques, donc tout à l'heure Pierre-Yves, tu as cité, on a cité 2001, 2002, la bulle, il y a eu aussi 2008 avec les problèmes économiques qui ont impacté beaucoup d'entreprises, et puis pour d'autres raisons, on peut avoir à se séparer de quelqu'un. Comment ça se passe concrètement? Alors peut-être qu'il y a plus d'expérience côté Historix, mais je vais laisser commencer peut-être Vincent.
Ouais. Alors nous, la séparation, on ne l'a pas encore vécue,
ouais.
Donc je n'aurai aucun retour d'expérience là-dessus. Après, mon intuition, c'est que... Le climat qu'on met actuellement dans l'entreprise, enfin le fait qu'il y ait un partage du pouvoir, la transparence, fait qu'on arrivera très certainement à des départs raisonnés plutôt que des très gros conflits, quoi. Concernant l'embauche, effectivement, nous, on s'est posé plusieurs questions au moment où on a embauché le premier salarié non fondateur du 24e. Donc notamment au niveau de la rémunération, je ne sais pas si on l'aborde maintenant ou si on en fait un point plus tard.
Bon, on finit sur cette partie-là, mais on fait un point après sur la rémunération.
Ouais. Oui. Donc voilà, donc nous on a fait rémunération libre pour
on va en parler, oui. Question.
Et ensuite, nous on a fait passer deux entretiens. Un premier entretien où on essaye de, donc à l'aide d'un jeu de cartes, je ne me rappelle plus le nom exactement, mais c'est une méthode qui est décrite dans un livre, qui permet d'essayer de trouver, de voir quelles sont les motivations de cette personne et d'essayer de voir si le 24e va répondre aux motivations de cette personne. Donc après, le biais dans les entretiens d'embauche, c'est que tout peut être un peu faussé parce qu'on peut avoir envie de coller, d'essayer de deviner ce que l'entreprise attend. Donc on essaie de le faire en début d'entretien. Et voilà. Et ensuite, un second entretien dans lequel on demande des lignes de code à la fin de ce premier entretien. On demande le salaire souhaité. Et au second entretien, on fait un feedback sur les lignes de code. On pose les dernières questions et puis voilà.
D'accord. Alors, on me précise sur le salon web de la radio, donc qui est disponible sur le site causecommune.fm, que le jeu de cartes s'appelle Moving Motivators. Alors... Je ne sais pas comment on peut le traduire en anglais exactement, mais bon, voilà. En tout cas, ça, c'est intéressant de voir qu'effectivement, que le recrutement n'est pas que technique, il est aussi par rapport au modèle. Bon, ça, ce qui est un petit peu normal, je pense que vous devez attirer des gens qui sont aussi intéressés par le modèle. Alors, côté Easter Egg, Pierre-Yves Dillard, bon, plus d'expérience parce que plus d'ancienneté. Donc, comment ça se passe au niveau recrutement et comment ça se passe quand il peut y avoir un problème
Alors, aujourd'hui, donc, on va revenir sur le rôle de la gérance. Effectivement, le gérant dans une SARL a tous les pouvoirs. Donc avant qu'on ait trois gérants, on en a toujours eu un pendant, et moi je l'ai été pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, un groupe, quand tout va bien, le gérant n'a aucune utilité particulière. C'est-à-dire que chacun est responsable et les choses avancent. Quand il y a des difficultés, c'est là où, en fait, où on attend, le groupe attend du gérant qu'il agisse au nom du groupe et qui prennent des décisions qui sont difficiles et qui sont difficiles à prendre en termes de groupe. Imaginez une entreprise de 20 personnes et on doit se séparer d'une personne. On ne va pas faire une assemblée générale, mettre le gars au milieu et lui expliquer pourquoi tout le monde pense qu'il devrait partir. Donc là, il faut que ça soit un face-à-face, homme à homme. Le gérant doit consulter plus ou moins officieusement, officiellement, sentir un petit peu les choses et à un moment prendre ses responsabilité et travailler alors sur pourquoi cette personne va mal, est-ce que a-t-elle vraiment sa place au sein de l'entreprise, il peut y avoir de la lassitude, enfin il y a plein de raisons qui font qu'une personne veut partir. Et moi ce que j'ai pu expérimenter, c'est que je suis devenu vraiment gérant au premier licenciement que j'ai dû réaliser. C'est parce que c'est très traumatisant, c'est extrêmement difficile. Il y a eu un engagement qui a été fait. C'est quasiment, il y a un engagement moral, dire que c'est, certes, il y a un contrat de travail, mais quand on rejoint une entreprise comme la nôtre, il y a un engagement qui va au-delà d'un contrat de travail, et une séparation, c'est compliqué. Donc c'est un point très important, et c'est un rôle attendu et important du gérant à partir du moment où on va être sur un groupe un peu plus important de 14, 15, 16, 17, 20 personnes. Et par ailleurs, quand en 2002, on a dû passer de 25 personnes à 12, ça a été aussi une aventure.
2008 puisque,
2002 déjà.
2002, ouais. D'accord.
Non, en 2008, on a géré différemment. Mais en tout cas, on a pu dire que n'importe quelle autre entreprise en 2002 serait liquidée. Nous, aujourd'hui, avec notre modèle, on a pu organiser les départs, des départs raisonnés, des départs, voilà. Mais ça s'est fait dans la discussion, plus à chaque fois individuel, parce que la question, c'est dans une entreprise, n'oubliez pas qu'on on a un engagement économique, on a des clients. Donc l'élément, c'est quand on est 24 et que d'un seul coup l'activité s'arrête, c'est qui est à l'arrêt, qui ne bosse plus, qui n'a plus d'activité et qui travaille. Et ça fait un moyen pour définir qui part, sachant que derrière, un certain nombre de salariés ont créé leur propre structure. On en a incubé un certain nombre et ainsi de suite. Mais c'est à ce moment-là que le gérant doit prendre ses responsabilités. Et c'est aussi à ce moment-là où le modèle a montré sa force, puisque si on allait à la liquidation, ce qui aurait été logique normalement par rapport à la situation, ça voulait dire que quelque part, les gens ne se préoccupaient pas forcément du modèle Easter Eggs, mais ils se disaient, si, ils me doivent ça, on va aller chercher, on va aller au tribunal, machin, on va récupérer. Les gens sont partis, on a pu assainir la situation. Et l'entreprise a pu perdurer et passer cette étape difficile.
Pour le grand plaisir de tout le monde. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Otra vez par Javiera Barro Ensemble. Et on se retrouve juste après.
Porque es dudar lo que me impulsa a estar acá. La dualidad remece el centro de mi paz. Y me resisto a no poderme expresar.
Cause commune.
Lo que hay en el cielo. Ya me aburrí de practicar el que dirán. Alimentar la falsa amor realidad. Y me atormenta esta cháchara mental. Vomito luego.
Son tantos rebotes.
Contrabass par Ravira Barrow Ensemble. Bon, excusez-moi pour la prononciation, je ne m'améliore pas de ce côté-là. C'est sous licence Creative Commons, partage à l'identique et les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc nous allons poursuivre notre discussion donc, sur la présentation de certains modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre. Et nous allons aborder maintenant le sujet de la rémunération, parce qu'il y a clairement une différence entre vos deux structures. Pierre-Yves Dillard, donc d'Easter Eggs, tu as expliqué tout à l'heure que donc, les salariés avaient le salaire égal. Et Vincent Laurent, pour le 24e, tu avais parlé, je crois, de salaire libre, ou en tout cas, bon. Mmh. Alors, on va commencer donc par Pierre-Yves. Pourquoi le choix de ce salaire égal?
Alors déjà, c'est parce que c'était simple, et parce qu'au départ, ça coulait de source. Et parce que ça s'imposait, quand au départ, il y a 4 personnes qui fondent une entreprise, il n'y a pas de raison de différencier un salaire plus qu'un autre.
En plus, il n'y en a pas de salaire au départ, généralement.
Et en plus, et voilà, et partager rien, c'est facile. Partager quand il y a très peu, c'est aussi très facile. Et finalement, ça s'est imposé assez naturellement. Et ça a été très vite un pilier de la cohésion et de la solidarité telle qu'elle s'est installée chez Easter Eggs, puisqu'en fait, ça permet un dépassement de fonction de chacun. Dans un métier où il y a des rivalités traditionnelles entre ces fameux commerciaux qui vendent n'importe quoi et des développeurs qui doivent développer des choses impossibles.
Vous êtes dans le métier de l'informatique, on va le préciser. Effectivement, voilà. C'est assez traditionnel.
Et puis, des admin 6 qui sont des ayatollahs et des développeurs qu'on font qu'à leur tête et qui ne travaillent jamais en stable. Donc, ces conflits-là, aujourd'hui, chez Easter Eggs, n'existent pas puisque chacun écoute attentivement les besoins de l'autre, puisque c'est la réussite du projet global et qui est attendu par tous. Et donc, le partage de cette rémunération commune et le partage aussi des fruits, des bénéfices.
Alors, puisque poursuivre sur la répartition des bénéfices, bah, et après on verra le cas du 24e.
Aujourd'hui, globalement, nous, on prend 80% des bénéfices de l'entreprise et on les répartit en part égale avec tous les salariés dans la limite de la législation, ce qu'autorise la législation à travers des plans d'épargne entreprise, des choses comme ça. Donc ça permet aussi de motiver, c'est de la motivation claire, puisque voilà, on a tous des familles et des obligations et on est aussi là pour gagner notre vie. Et donc c'est quelque chose d'important et je sais que voilà, à partir de septembre, octobre, on sait que généralement l'entreprise est à l'équilibre et que tout ce qui va être fait ou tout ce qui rentre à partir d'une certaine date, ça devient du bénéfice et ça devient du complément de rémunération qui fait partie aussi d'une forme de qui sanctionne, on va dire, un travail réussi et collectif.
D'accord. Donc ça, c'est Easter Eggs. Et côté 24e, vous, c'est pas du tout le même choix.
Alors, pas le même choix au niveau, effectivement, de la rémunération mensuelle. Quand on a démarré, on était donc trois cofondateurs. Donc, on s'est évidemment versé le même salaire. On avait le même niveau d'investissement. Et quand on s'est posé la question de commencer à recruter, on s'est demandé comment, justement, on allait gérer cette question de la rémunération. Et donc, au début, on s'est dit, on va faire le même salaire égal. Et en fait, après réflexion, on s'est dit que ça pouvait peut-être être intimidant d'arriver dans une entreprise dans laquelle il y a 3 cofondateurs et de gagner le même salaire que ces trois personnes. Et donc, du coup, on a décidé de faire de la rémunération libre. Donc, chacun est libre de décider de son salaire, pas besoin de validation des autres. De toute façon, elle est inhérente. On ne va pas, bien sûr, décider du jour au lendemain comme ça de se verser 1000 euros de plus sans en mesurer les conséquences, c'est bien sûr c'est évident. Et donc voilà, donc quand on a passé les premiers entretiens, les candidats donc nous donnaient le salaire qu'ils voulaient avoir et donc c'était en gros le salaire qui leur permettent de vivre dans les conditions dans lesquelles ils souhaitent vivre.
Et donc dans chaque cas, ça a correspondu finalement aux possibilités de l'entreprise.
Exactement. Ouais, comme les comptes sont, comme l'historique bancaire est public, tout est public. Donc du coup, tout le monde a toutes les cartes en main pour savoir si son salaire est en adéquation avec l'entreprise. Après, Donc nous, on considère l'entreprise comme un bien commun et c'est pourquoi aussi on reverse tous les bénéfices, donc 100%, enfin, hormis les aspects légaux des scopes qui nous forcent, enfin, qui obligent à mettre en réserve, mais tout le reste est reversé aux salariés. Et voilà, on ne verse pas de dividendes. Et donc, c'est pareil, c'est en participation, en mécanisme de participation. Donc voilà, on conçoit vraiment l'entreprise comme un bien commun et chacun est là pour faire vivre ce bien commun et le choix du salaire en conséquence.
D'accord. Alors, ça me fait penser à une question. Tu parles de la question du salaire égal entre anciens et nouveaux qui pouvait être un peu déstabilisant. Ma question, c'est ce qui peut être aussi déstabilisant, c'est de rentrer dans une structure où il y a des... Mine de rien, on dit une personne, une voix, mais il y a quand même des gens qui ont peut-être un peu plus de présence, ne serait-ce que d'historique. Tout simplement, par exemple, Pierre-Yves Guillard, l'un des fondateurs, donc forcément, côté 24e, les trois cofondateurs. Comment ça se passe pour les personnes qui entrent? Comment est-ce qu'il y a un certain temps d'adaptation pour passer d'une personne spectatrice à une personne actrice? Et est-ce que les personnes à l'origine du projet gardent toujours, on va dire, peut-être un avantage ou autre?
Alors, nous, c'était un sujet important et la question, ça a été de dire à quel moment, chez Historix, un gérant sera issu d'un salarié non fondateur, ce qui est arrivé il y a maintenant une dizaine d'années, voire plus. Ouais. Donc, ça validé le système. Ça montrait quelqu'un qui n'avait pas fondé l'entreprise pouvait se l'approprier complètement et pouvait tisser ce lien, on va dire, assez charnel quand on est au début d'un projet, qu'on se paie pas de salaire, que c'est compliqué, qu'on n'y croit plus. Donc ça, c'est intéressant que des personnes non fondatrices soient devenues gérants. Ensuite, le statut de gérant ou le statut de fondateur, c'est un statut, de toute façon, on ne peut rien y faire. Il y a forcément un rôle légèrement différent, mais... ce rôle-là, il y a aussi un rôle différent des salariés qui eux-mêmes sont passés par la gérance. Et aujourd'hui, tout salarié qui est passé par la gérance, donc aujourd'hui chez Historix, on est trois anciens gérants salariés et il y a actuellement trois gérants. Quand on est passé par la gérance, on a une conscience légèrement différente des enjeux. C'est pas tout à fait explicable, c'est presque irrationnel, mais on a un sens de responsabilité un peu différent, même si ça ne veut pas dire que les autres sont irresponsables, loin de là. Hein. Mais c'est un ressenti qui est assez différent et c'est assez intéressant ensuite de partager sur des prises de décision avec des gens qui ont pu être aussi proches de la prise de décision et de la difficulté de certaines prises de décision. Donc chez Historix, il y a des statuts qui sont... alors, on n'est pas inébranlable, mais si on reste là, c'est qu'on y est bien. mais ça, on peut rien y faire. Hein. Mais je pense que c'est inhérent à toutes ces organisations maintenant qui ont un peu vieilli. Et puis, je pense que la présidence de l'April et son délégué général peuvent avoir également de temps en temps des confusions, mais en tout cas, pour certains, on peut oublier que. Vous, Frédéric, que toi, Frédéric, n'es pas seulement délégué.
Tout à fait. Mais les statuts et l'organisation avec des personnes fortes permettent que la structure, effectivement, perdure dans le bien commun, en fait, de l'objectif initial qui, pour nous, est la promotion et la défense du logiciel libre et qui, pour vous, est finalement de produire ou d'accompagner des structures vers le logiciel libre. Je croyais que tu voulais rajouter quelque chose,
En fait, nos statuts forts, en fait... qui vont garantir tout excès par rapport à une position dominante qui pourrait être celle-ci, puisque dans notre système, l'ensemble des salariés incarne l'actionnaire, c'est-à-dire que la personne qui est gérant ou toute personne qui pourrait exercer un pouvoir jugé trop exorbitant pourrait être démis du jour au lendemain par l'ensemble des salariés qui incarne finalement l'actionnaire majoritaire.
Alors, sur cette partie-là, on ne va pas rentrer dans les détails parce que l'émission est courte malgré tout, mais je signale une conférence que tu avais donnée donc à Passage en scène, je crois que c'était en 2016. Oui. Easter Eggs, un modèle d'entreprise démocratique. Donc, vous trouverez les références sur Internet et sinon, je les mettrai sur le site de l'April tout à l'heure, dans lequel tu rentres plus en détail sur ce mode de fonctionnement.
Tout à fait.
Et notamment le statut de SARL et d'association à côté, qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, parce que sinon on y passera à la fin de l'émission. Vincent, là on va maintenant aborder un sujet que tu as abordé tout à l'heure, tu as parlé tout à l'heure d'agilité, d'organisation. Donc justement, au quotidien, comment s'organise la société pour les projets et puis pour les décisions à prendre? Donc, quand tu as parlé d'agilité, tu entendais par quoi? Parce que je pense que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce qu'est l'agilité.
Ouais, donc l'agilité, c'est une façon de mener des projets ou de mener un projet à bien. Donc il y a juste pour expliquer brièvement, le cycle en V classique, c'est on a un besoin, on recueille les besoins, nous dans notre activité, on développe le logiciel, et à la fin, quand on a terminé, on montre le logiciel au client. Donc cette méthode fait qu'en fait, on a des périodes de développement très longues parce qu'on n'a pas de retour rapide et on se trouve à devoir développer tout très rapidement. Donc la méthode agile, ça permet de pas avoir ces développements en silo où pendant un an, on va pas discuter des besoins qui vont potentiellement avoir évolué. Donc nous, la méthode agile, concrètement, donc on a deux aspects de la méthode agile, c'est en interne et avec les clients, mais ça se rejoint pas mal. Donc avec les clients, concrètement, ça s'organise en ce qu'on appelle des sprints, donc c'est des réunions qu'on fait tous les mois environ. Donc le client a un projet, il nous envoie ses besoins. On commence directement par développer ce qui nous semble pertinent pour démarrer le projet. On fait une première réunion, on lui montre ce qu'on a fait. Donc la méthode agile, c'est toujours discuter sur du concret. Donc on lui montre ce qu'on a fait, il nous fait des retours, on corrige, on voit si on est parti dans une impasse ou pas. Ensuite, on discute sur ce qu'on doit développer la prochaine fois, toujours sur du concret, sur des interfaces crayonnées sur du papier ou bien sur des choses développées très rapidement. Et ça nous permet d'avoir un objectif pour le sprint d'après. On définit la réunion, donc souvent 3 semaines ou 1 mois et demi après. Ça dépend justement de la quantité de travail à abattre. Et ainsi de suite, jusqu'à la réalisation finale du projet. Il y a plusieurs façons de mener des méthodes agiles, mais nous, on utilise beaucoup le management visuel, donc pour recueillir les corrections de bugs, les petits besoins, on utilise des post-it qu'on accroche au mur et qu'on organise par client.
D'ailleurs, sur votre site, il y a pas mal de photos très sympathiques avec plein de post-it de toutes différentes couleurs.
Ouais, on a des post-it à 360 degrés dans notre bureau, donc ça nous permet de gérer ça. On a des post-it qui nous permettent de gérer tous les projets en cours, à venir, les deadlines, les attentions particulières des clients qu'on relie très régulièrement. Ça nous permet de gérer les priorités, en fait. Et on a aussi plus en méthode Kanban. Donc la méthode Kanban, c'est de faire évoluer les post-it. Donc par exemple, on va écrire sur un post-it, faire signer le contrat avec le client Intel. Et on va le faire évoluer. Et on va le faire passer de statut signé à envoyer, signé, etc. Donc on utilise des post-it un peu pour... donc très visuel. Le but, c'est que ça soit très visuel. Et quand on rentre dans le bureau, on voit où on en est, la quantité de travail à abattre. Et donc...
Tu veux ajouter quelque chose?
Ouais, donc un des principes forts, c'est celui qui sait qui fait. Et c'est aussi celui qui décide. Donc celui qui développe, c'est celui qui va en réunion, c'est celui qui décide. Ça, c'est très fort chez nous. On n'a pas de gestion de projet, on n'a pas de Scrum Master. On s'organise tous, on a tous ce rôle-là.
Un Scrum Master, c'est un responsable de la méthode, dire, dans la terminologie agilité. Alors, je vois le temps qui avance et je pense qu'on consacrera une autre émission pour poursuivre avec vous sur un certain nombre de sujets. Mais avant, j'aimerais quand même poser quelques questions, notamment une petite question. Tu as parlé des clients, Vincent. Donc, très rapidement, comment vous êtes perçu par vos clients par rapport à votre modèle d'organisation? Est-ce que vos clients sont informés? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Tous les deux. Pierre-Yves.
Alors, en fait, au départ, nous, sur certains clients un peu classiques, institutionnels, on se présentait comme une boîte très classique. Enfin, on ne se présentait pas, en fait. On se présentait comme une SARL, puis point barre. Et puis, une fois la relation tissée, à l'occasion d'un déjeuner, d'une rencontre, eh bien, on allait plus loin dans le modèle d'organisation, qui on était vraiment. Et en fait, on s'apercevait qu'à chaque fois, ça créait une sympathie, une adhésion supplémentaire, puisqu'en fait, ils avaient rencontré techniquement des gens, doués. Mais en plus, on leur expliquait en fait pourquoi l'investissement, pourquoi ils avaient des gens en face d'eux qui avaient l'air aussi concernés par leur projet. Donc, en fait, ils mettaient en relation, finalement, une forme de qualité qu'ils jugeaient intéressante et puis un modèle d'organisation. Donc, après, c'est devenu pour nous un modèle, une forme de communication. En fait, on a complètement assumé, et d'ailleurs, aujourd'hui, ça se voit sur notre site, parce que c'est ce qu'on met en avant en premier lieu, c'est notre modèle social, puisque on a aussi vocation, pas seulement de travailler avec des entreprises, on va dire, classiques, mais aussi à travailler avec des clients de l'économie sociale et solidaire, avec qui on a des... on se sent plus proche et avec qui le travail est souvent plus fluide et plus logique. Pour si, voilà, je vais citer Enercop ou Mobicop ou en tout cas des clients de ce type-là avec qui on partage naturellement une envie de travailler ensemble.
Et côté 24e ?
Donc nous, on ne communique pas trop sur le fait d'être une entreprise libérée auprès de nos clients. On communique plus sur donc ce qui va les impacter directement, la méthode agile, le fait que c'est du logiciel libre. Parce qu'ils peuvent, peuvent bénéficier de codes qui ont déjà été payés par d'autres clients. Et ils sont co-auteurs du logiciel, ce qui leur offre beaucoup d'indépendance. Et après, en fait, notre gouvernance et notre façon de partager le pouvoir, ça, c'est plus dans la relation de confiance de long terme avec nos clients qu'on va la mettre en avant. Mais ça va se mettre en avant un peu de façon naturelle, par des exemples concrets, des réunions qu'on fait avec nos clients, qui dure plusieurs jours, voilà.
D'accord. Autre question, vous êtes deux structures, comme l'on dit tout à l'heure, plutôt type TPE, on va dire, avec une vingtaine de personnes dans un cas et cinq personnes dans l'autre cas. Alors très rapidement, peut-être plutôt Vincent Laurent, est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui fonctionnent sur ce modèle proche ? Est-ce que c'est le terme entreprise libérée ? Est-ce que vous reconnaissez ce terme-là, 24e ? Parce qu'on n'a pas abordé ce terme.
Oui, c'est, le terme, c'est, on se reconnaît dans le terme entreprise libérée. Ouais.
D'accord. Donc, sur le site de l'entreprise, vous avez des références. Et de toute façon, je pense qu'on consacrera une autre émission. Mais là, ce qui était important, c'est au-delà du terme, c'est la méthode. Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises dans lesquelles ça marche, mais de taille supérieure et hors du domaine informatique ? Ouais.
Alors, j'ai que des exemples hors du domaine informatique de taille supérieure. Enfin, ici, il y a Sun, je crois, en informatique, qui a à un moment été libérée. Qui était assez entreprise libérée.
D'accord.
Mais sinon, les gros exemples, c'est Burtzorg. Donc, c'est une entreprise néerlandaise de 10 000 personnes qui, depuis 2006, donc ils ont une croissance très forte. En fait, c'est une organisation qui permet aux infirmières de s'organiser en petits groupes pour pouvoir exécuter leur travail dans des conditions humaines. Et donc, voilà, c'est parti d'un constat simple que les infirmières, tout était chronométré, tout... faire un pansement, c'est 5 minutes, ça coûte tant, etc. Et donc, la personne qui a fondé Burtzorg a décidé d'essayer de trouver une organisation qui permette aux infirmières d'avoir une gestion humaine de leurs patients et, voilà. Et du coup, qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus économique pour la sécurité sociale néerlandaise.
D'accord.
Pour ensuite,
dernier.
Ouais, Gore, c'est donc ceux qui font le Gore-Tex, donc c'est ceux qui font la technologie, enfin le tissu qui permet... aux vêtements d'être étanches et ils ont plein d'autres applications. Donc eux, ils sont 5000 salariés, ils font 2 milliards de chiffre d'affaires. Et eux, c'est depuis 1958. Et c'est pareil, ils sont organisés en petites équipes, mais pas fixes. Chacun peut décider de projets à mener. Ils ont des médiateurs. Enfin, ils ont des... En gros, chacun peut avoir une sorte de conseiller. Enfin, voilà, ils sont assez libres.
Je crois que le terme employé, c'est « leader ».
Alors, et après, il y a les leaders libérateurs.
Leaders libérateurs.
Donc, ça, c'est plus dans le cadre de la transition,
D'accord.
fait. Souvent, on a un leader libérateur qui va transformer l'entreprise et la rendre plus libre, et qui peut aussi poser des problèmes à son départ. Voilà.
Alors, je précise que Gore, je connais, parce que c'était dans le reportage que j'ai encore une fois regardé hier, donc on remettra la référence sur le site de l'April. Hein, c'est Le Bonheur au Travail qui a été diffusé sur Arte. Alors, dernière question, et puis alors, les autres exemples d'organisations donc, qui ont ce même modèle-là, il y a un site que j'ai cité tout à l'heure, c'est Organisation Libérée.
Ouais, au pluriel, avec un accent.
Avec un accent.fr, mais sinon vous allez sur le site de l'April, il y a le lien qui vous donne plusieurs exemples. Et il y a aussi des exemples sans doute d'échecs. J'ai vu récemment par exemple Auchan qui avait tenté ça, parce que dans le reportage aussi, ce qui est très, très intéressant qui est montré, c'est que la parole est donnée aussi à certains syndicats qui pointent évidemment des potentiels problèmes dans ce genre d'organisation, notamment pour les grosses entreprises. Donc je vous invite vraiment à consulter ça. J'insiste sur le fait d'ailleurs que les deux expériences qu'on vous montre aujourd'hui, ce sont deux expériences personnelles et qu'il convient ensuite de voir dans chacune des structures comment les adapter par rapport à cette ambition d'entreprise démocratique. Mais j'ai une dernière question qui concerne peut-être votre actualité ou vos besoins. Est-ce qu'il y a du recrutement en cours, par exemple ? Pierre-Yves, pour commencer.
Oui, on est désespérément à la recherche d'un développeur Perl. Et puis s'il connaît Request Tracker, le fameux logiciel de ticketing qui nous sert tant, c'est un plus. Voilà. Donc un appel à tous les mongers.
Les mongers, le surnom des personnes qui développent en Perl. Vincent, pour 24e.
Nous, on n'est Pas particulièrement, si ce n'est qu'on n'est que des hommes et on aimerait bien un peu de parité dans notre équipe de développement.
Eh ben, très bien, d'ailleurs, ça me fait penser que sur le salon web, quelqu'un précise que Historic recherche un développeur ou une développeuse Perl. C'est une précision évidemment importante. Ben, écoutez, je vous remercie tous les deux, donc Pierre-Yves Dillard de la société Easter Eggs et aussi du réseau Libre Entreprise dont on parlera la prochaine fois qu'on n'a pas, abordé. Vincent Laurent, donc du 24e, donc 24e.fr, easter-eggs.com. Donc c'est quelque part un peu le bonheur au travail dans le monde du logiciel libre, mais je voudrais quand même préciser que ce n'est pas parce qu'on travaille dans le monde du logiciel libre qu'il y a forcément du bonheur. Il y a aussi des entreprises qui sont en souffrance, ou plutôt les salariés sont en souffrance, je ne citerai personne évidemment, mais voilà, il faut quand même faire attention là où on met les pieds. Donc je vous remercie pour cette intervention. Donc on n'a pas abordé tous les sujets qu'on voulait, clairement, et on les abordera sans doute dans une seconde émission, et peut-être même d'ailleurs dans le cadre d'autres émissions de Cause Commune. Je pense notamment à l'émission Cause à effet ou l'émission Le Monde du Travail en question, peut-être pour avoir un échange avec des gens différents sur ce sujet qui est vraiment passionnant. En tout cas, je vous remercie. Bonne journée.
Merci.
Merci à vous.
Alors, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Sur la Terre par Sucre Pop et on se retrouve juste après.
Cause commune
93.1.
Sur la Terre, des gens qui pleurent et se serrent lancent en l'air des prières. Ces prières retombent en pluie. Sur la terre, sur la terre, des gens qui rient et se servent à leurs pieds l'univers. Tout s'achète pour peu que tu saches faire. Sur la terre, et pourtant y avait moyen de nous faire un paradis sur terre.
Par Sucre Pop en licence Creative Commons partagée à l'identique. Les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons maintenant passer au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre avec une chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, vice-présidente de l'April. La chronique s'intitule « Partager est bon » et pour cette nouvelle chronique, Véronique nous commente un texte de Richard Stallman intitulé « Le droit de lire ».
Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Véronique Bonnet. Bonjour, Véronique.
Bonjour, Fred.
Alors, Véronique, tu es professeure de philosophie et tu es également membre du conseil d'administration de l'April. Et tu vas nous faire une nouvelle chronique intitulée « Partager est bon ». Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un article assez ancien de Richard Stallman, plus de 20 ans, 1997, qui s'intitule « Le droit de lire ».
Alors, cet article est une dystopie. Alors, une dystopie, c'est une fiction. Bon, je pense que vous connaissez Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Il y a quelque chose de cela, puisque dans la fiction de Bradbury, il y a des autodafés, on brûle les livres, on veut absolument que les personnes ne puissent pas accéder au savoir, et la seule ressource, c'est que les rebelles apprennent par cœur des textes. Il y a un tel qui devient le chapitre de la physique d'Aristote, le premier chapitre, il y a un autre qui connaît par cœur un poème de Goethe, etc. Il y a un autre texte qui est le 1984 d'Orwell, qui visiblement est aussi dans la même lignée. On appelle une dystopie donc une fiction qui représente un état du monde épouvantable, ce qui est le cas ici. Le narrateur de cette chronique, de cette fiction, se trouve après une révolte, révolte qui a succédé à un écrasement intégral de l'autonomie d'accéder au savoir, de lire des livres. Et il se trouve que le héros qui est évoqué par le narrateur, qui parle depuis 2096, reçoit en 2047 une demande qui émane d'une jeune fille qui s'appelle Lisa. Alors le héros, c'est Dan Albert. Il se trouve que Lisa Lenz, qui est très pauvre, lui demande de lui prêter son ordinateur parce qu'elle a besoin de rédiger un rapport universitaire, sans quoi elle va échouer. Et il se trouve qu'en 2047, cette demande est choquante, puisque ceux qui veulent partager des ordinateurs, des mots de passe, des livres, sont considérés comme des rebelles, des pirates, des délinquants. Et donc Dan est très choqué parce qu'il sait que s'il prend ce risque dans ce monde crépusculaire de partager avec Lisa, simplement donc cet outil de travail, il va avoir des problèmes de la part de la SPA, la Software Protection Authority, qui veille sur les copyrights, qui siphonne les données générées par des utilisateurs grâce à un dispositif espion, qui enregistre, qui sait qui lit quoi, quand, combien de temps. Je pense que ça vous rappelle des choses, toute référence avec des situations réelles est évidemment indue. Et il se trouve que Dan réfléchit, puisque certes, il risque de se faire emprisonner. C'est exactement ce qui est arrivé à l'un de ses amis, Frank Martucci, qui avait utilisé un outil de débogage pour déverrouiller le code du moniteur de copyright, pour accéder donc à un livre. Alors, dans ce moment extrêmement noir, il se trouve qu'on a même oublié ce qui avait lieu avant 1990. Avant 1990, il y avait un accès libre à des bibliothèques. On pouvait emprunter gratuitement des livres scientifiques. On pouvait partager des logiciels. Il y avait des noyaux libres, il y avait des systèmes d'exploitation libres qu'on aurait pu installer, mais que désormais on ne peut plus installer, étant donné que dans ce lieu qui est très fermée, plus aucune possibilité d'accès à du savoir n'existe. Ou alors il faut payer vraiment très très cher. Et en plus, Dan est très embêté, puisque s'il prête son ordinateur à Lisa, elle pourra regarder ses livres. Et là, c'est terrible, puisqu'on ne peut pas, si on a acquis très très cher des livres scientifiques, on ne peut évidemment pas les faire lire à quelqu'un d'autre. Simplement, l'amour donne des ailes. Et il se trouve que Dan aime Lisa. Et il va faire un geste inconsidéré, aussi fou qu'au début de 1984 d'Orwell, c'est-à-dire qu'il va non seulement lui prêter son ordinateur, mais il va lui donner son mot de passe. Et il se trouve que Lisa, qui aime Dan, ne le trahira pas, parce qu'elle peut évidemment aussitôt le dénoncer, et il est enfermé comme celui qui a essayé d'utiliser un outil de débogage à tout jamais dans une prison. Alors, quand on voit déjà ce qu'il en est de ce scénario, bon, il se trouve que j'ai parlé avec Richard Stallman en lui disant à quel point cette fiction, cette dystopie était propice à un film, hein, à tel point les détails très puissants, ce texte est de 1997, il est presque d'une certaine façon prémonitoire. Alors nous pensons bien sûr au DRM, les Digital Restrictions Management, la gestion numérique des restrictions. Et là, je pense, Fred, que nous pouvons renvoyer à la vidéo de l'April sur les DRM.
Alors, les DRM qu'on appelle aussi menottes numériques, on peut renvoyer à deux choses. Il y a une vidéo qui a été faite il y a maintenant 2 ans qui montre l'impact des DRM, justement, notamment sur les livres. Vous les trouvez sur le site de l'April. Et également une précédente émission Libre à vous de 2018, donc, qui était consacrée justement à cette question des menottes numériques. Donc vous allez sur le site de l'April, april.org, dans la partie consacrée à l'émission Libre à vous, et vous retrouverez ça dans les archives.
Alors il se trouve que ce récit, cette fiction, est suivi d'abondants commentaires qui sont régulièrement remis à jour, lorsque par exemple Richard Stallman parle des fonctionnalités orwelliennes de certaines liseuses, bon, son assimilation de Kindle à Swindle, donc d'Amazon, hein, ce qui espionne, profile le lecteur. Bon, on a en tête ce qui s'est passé en 2009, hein, lorsqu'il y a eu effacement de plus de 1000 copies de 1984, donc sur les liseuses. Les commentaires portent aussi sur la vigilance qui est requise lorsque on parle de traités internationaux, puisque dans les traités internationaux, il y a vraiment toujours la volonté de transformer des ressources ouvertes à des dispositifs qui privent, qui empêchent, qui rendent le savoir denrée rare et chère, bon, ce qui est un extrême paradoxe. Il se trouve qu'Aristote disait que le savoir était aussi nécessaire que l'eau et qu'il fallait qu'il soit gratuit comme l'eau, qu'il fallait pouvoir le partager comme l'eau. Je pense aussi, Fred, je crois que tu serais, me semble-t-il, dans cette même impression que moi, à la directive droit d'auteur, qui a été examiné par la Commission européenne, je pense à l'article 13 sur le filtrage automatique des plateformes. Dans les commentaires, dans ce texte de 1997, Richard Stallman parlait déjà de cette menace sur l'Internet qui allait faire de lui un Internet à plusieurs vitesses. Donc ceux qui disposent d'un redoutable mot de passe que donnent au compte-gouttes les autorités, les outils de débogage étant réservés à très peu. Bon, certes, il y a les apprentis informaticiens, il y a un usage très restreint, quand vraiment on veut leur faire étudier un petit peu de code, d'outils de débogage protégés par des pare-feux, par exemple. Et donc, il y a, dans le rapport entre cette fiction et les commentaires, ce texte étant prémonitoire, les commentaires sont constamment mis à jour, l'hypothèse que le droit de lire, qui fait partie de la démarche la plus essentielle pour faire de soi quelqu'un qui n'est pas en proie aux illusions, se trouve dans cette dystopie alourdie par des dispositifs architecturaux. Donc je pense à ce code qui n'est pas libre, et si le code n'est pas libre, la société n'est pas libre. Quelqu'un a dit le code, c'est la loi. Et comme ma discipline de prédilection est la philosophie, je rappellerai qu'en 1516 ont été publiés conjointement Le Prince de Machiavel. Alors comment rester au pouvoir par tous les moyens, y compris en empêchant ces sujets d'être éduqués, d'apprendre à lire. Mais en même temps, 1516 toujours, il y a ce premier texte qui s'appelle Utopie, de Thomas More. Et dans l'utopie de Thomas More, qui est exactement aux antipodes du Prince de Machiavel, on essaie de construire une architecture telle que les rapports entre les humains soient confiants, soient proches, soient propices au partage. Et je dirais que, toute proportion gardée, les propositions du projet GNU, qui vise à une architecture informatique propice à l'accès à des documents et à des processus, s'inscrit dans cette lignée. Alors, d'une utopie, attention, parce que parfois on fait de l'utopie une illusion, mais de l'utopie au sens propre, et c'est un néologisme de Thomas More, « e », ça veut dire « bon ». Et je dirais en conclusion, informatique libre, société libre.
Bah, c'est une belle conclusion, Véronique. Donc, un texte, on va le rappeler, qui a été écrit en 1997, qui est donc disponible sur le site de GNU, donc gnu.org, gnu.org, le droit de lire. On rappelle aussi qu'une dystopie, donc comme tu l'as dit, c'est une fiction dans laquelle la société est construite pour empêcher ses membres d'atteindre le bonheur, alors que, évidemment, c'est le contraire du projet GNU, avec le partage du savoir, la libération, l'accès à l'ensemble des savoirs. Voilà, donc en tout cas, merci pour cette chronique, dont on va rappeler le titre, qui est évidemment « Partager est bon ». Et on se retrouve bientôt pour la prochaine chronique. Merci Véronique, belle journée.
Belle journée à toi.
Donc comme vous l'avez compris, cette chronique avait été enregistrée il y a quelque temps, ce qui explique la différence de son. Donc nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors la semaine dernière, j'avais évoqué le projet de loi pour une école de la confiance, avec notamment un amendement 187 voulant instaurer la priorité au logiciel libre dans l'enseignement public. Malheureusement, cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission de la culture et de l'éducation, au titre qu'il n'aurait pas de rapport direct ou indirect avec le projet de loi. Donc, nous sommes particulièrement évidemment surpris. Bon, faut le savoir qu'une centaine d'autres amendements a subi le même sort. Mais cependant, vendredi 17 mai, il y a eu un débat sur le logiciel libre à l'occasion d'un autre amendement, de la discussion d'un autre amendement, sur le site de l'April, donc april.org. Vous pouvez retrouver à la fois la vidéo et la transcription de ces échanges. Et nous remercions les sénateurs et sénatrices qui sont intervenus dans le cadre de ce débat, notamment Pierre Ouzoulias, Françoise Laborde et Catherine Morin-Desailly. Tout à l'heure, je vous ai signalé que lors de la première pause musicale était issue d'une nouvelle émission de radio sur le logiciel libre. Donc ça s'appelle La Voix du Libre. C'est sur Graphite, GRAFHIT, excusez-moi, donc c'est tous les vendredis de 9h à 9h30 autour de Compiègne, donc à la fois sur la FM et en streaming. Ce sont nos amis de Picasoft.net qui ont monté cette émission. Donc Picasoft, c'est une association de l'Université de Technologie de Compiègne qui a pour objet de promouvoir et défendre une approche libriste respectueuse de la vie privée et de la liberté d'expression dans le domaine de l'informatique. Et Picasoft.net, c'est en fait un chaton, donc ça fait partie du collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, dont on a déjà parlé dans cette émission. Alors, les actualités à venir, eh bien, Demain soir, donc mercredi 22 mai, de 19h à 22h, au café associatif La Commune, dans le 12e arrondissement de Paris, donc 3 rue d'Aligre, aura lieu la diffusion de La Bataille du Libre. Donc c'est la version longue du documentaire de Philippe Borel qu'on a présenté la semaine dernière, donc je vous invite à y assister. Donc c'est mercredi 22 mai 2019, de 19h à 22h, au café associatif La Commune. Les informations sont sur le site de l'April. Ce week-end à Marseille, l'association Debian France, donc Debian c'est une distribution logicielle libre, organise une DebConf, c'est le terme de cette conférence, le week-end donc des 25 et 26 mai. Cet événement a pour but de réunir développeurs, développeuses, contributeurs, contributrices, utilisateurs et utilisatrices de Debian et aussi toute personne intéressée par le projet avec une série de conférences, d'échanges consacrés à Debian. L'April, ben, nous serons présents la semaine prochaine à la Fête du Libre, donc le 25 mai, ah non pas la semaine prochaine, cette semaine, excusez-moi, le 25 mai à Ivry-sur-Seine, donc près de Paris, il y a toute une journée de conférences et d'ateliers. La semaine prochaine, par contre, 31 mai, il y a l'apéro April au local de l'April, donc que nous partageons avec nos amis d'Easter Eggs de Pierre-Yves Dillard qui est en face de moi. Alors notre émission se termine, vous entendez ce magnifique générique. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, donc Marie-Odile Morandi, Pierre-Yves Dillard, Vincent Laurent, Véronique Bonnet. Aux manettes à la régie, ben je remercie Patrick Creusot, qui a été aussi également assisté de ma collègue Isabella Vanni. Tout à l'heure, on a expliqué que 24e, ce n'était pas l'inverse de 42, mais 42 est un chiffre assez important aujourd'hui. Je souhaite un bon anniversaire à Isabella, et on nous souhaite tous un bon anniversaire, évidemment. Alors, et également un grand merci à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe aussi et avec beaucoup de soin du traitement et de la préparation des podcasts avant leur mise en ligne. Et il fait un gros travail qui permet d'améliorer la qualité du son. Alors, vous retrouverez sur notre site april.org toutes les informations utiles, ainsi que sur le site de la radio, donc causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 28 mai 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le logiciel libre et les collectivités, avec des invités de Paris et de Grenoble. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 28 mai. Et d'ici là, portez-vous bien.